France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia Deville.
Heile mich Gott zu erretten. Heinrich Schütz, nous écoutons ici Alice Faucroul et puis l'ensemble In Alto, disque qui est reparti hier soir en direct sur France Musique avec le Diapason d'Or, catégorie musique baroque. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Lambert Colson. Bonjour.
Bonjour Saskia.
Cornettiste et puis figure de proue de l'ensemble In Alto et puis Bernard Faucroul, organiste, évidemment directeur du Festival d'Aix-en-Provence. Bonjour.
Bonjour Saskia.
Vous allez bien?
Très bien, nous allons très bien.
Lambert Colson va peut-être commencer avec un petit mot sur cette cérémonie. Comment ça s'est passé? Ça va, Émilie, Rodolphe et Clément étaient gentils?
Adorable, tout s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. C'était l'occasion de voir plein d'autres musiciens.
Est-ce que Gardiner vous a félicité?
Voilà,
évidemment,
parce qu'il y avait
pas personnellement, mais j'ai senti qu'il avait été très touché.
Vous avez donc été récompensé pour ce disque. Un petit mot sur ce disque Lambert Colson, pardon, qui est paru l'année dernière sous le label Passacaille.
Eh ben, un petit mot, que dire de plus? J'ai réalisé, en fait, a posteriori, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ce disque-là à ce moment-là? Je me suis en fait, j'ai réalisé que tout simplement, c'était quelques mois avant de devenir père, et que c'est un disque qui parle de paternité, de transmission. Finalement, c'était plutôt un bon timing. Voilà, que dire de plus?
On va surtout parler de votre nouveau disque, sur lequel vous partagez l'affiche, évidemment, avec vous, Bernard Faucroul. Qu'est-ce qui fait que, Bernard Faucroul, on va s'adresser aux musiciens aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'orgue et le cornet, finalement, se marient si bien?
C'est un vrai miracle, hein, cette affaire-là. Alors, je pense que, bien sûr, ce sont deux instruments avant, mais le cornet est, à mes yeux, à mes oreilles, l'instrument le plus vocal qui soit. Et du coup, il apporte une humanité à l'orgue qui est un instrument plus statique. Et il me semble qu'il y a une combinaison dans les sonorités et dans bien sûr dans le style de musique, hein, cette musique qui vient de la Renaissance, qui sort de la Renaissance, qui rentre dans le baroque, qui va traverser d'ailleurs pour une bonne partie du XVIIe siècle. C'est un alliage qui est absolument magique, et que ce soit, alors si en plus les voix, le cornet fait naturellement la transition entre le son de l'orgue et le son de la voix, ou l'inverse. Juste en duo, c'est quelque chose d'extrêmement touchant.
Tiens, Lambert Colson, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le cornet, comment est-ce que vous le décririez, cet instrument?
Alors, faut s'imaginer une flûte un peu tordue, surmonté non pas comme l'orgue d'un biseau dans lequel pour produire le son, mais d'une embouchure. Encore, nous on y voit une embouchure, donc un peu comme sur une trompette, dans laquelle le cornettiste fait vibrer ses lèvres et produit le son. Donc c'est pour ça qu'il fait partie du coup de la famille des cuivres, malgré le fait qu'il soit construit en bois et recouvert de cuir.
Et on va en parler, bien sûr. 8h12, je vous propose un premier extrait de ce disque, le cornet et sa musique à Rome entre 1500 et 1700. Voici le contrapunto 111-5 de Costanzo Festa. Contrapunto 111-5, Costanzo Festa, extrait de ce nouveau disque, Le Cornet et sa musique à Rome, entre 1500 et 1700, qui paraît sous le label Passacaille. Comment est né ce projet, tiens, Lambert Colson?
Eh ben, c'était un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai l'impression qu'on a quand même, j'ai quand même essentiellement grandi en France, et on a un peu cette tendance à imaginer que tout est centralisé, que tout se passe à un seul endroit, dans cette grande capitale du monde qui est Paris. Pour le cornet, c'est un peu la même chose. En tout cas, vu de la France, en s'imaginant que tout ce qui a été écrit, composé et imaginé, et tout ce qui se faisait de bien pour le cornet à bouquin se passait à Venise. C'est devenu même le symbole de la musique de la fin du XVIe et du début du XVIIe par tous ces grands virtuoses du cornet que l'on connaît mieux en tout cas à Venise. Et ma question, la simple question que je me suis posée, c'était de savoir qu'est-ce qui a pu se passer ailleurs en Italie, parce qu'on savait que le cornet était joué presque partout en Europe, mais est-ce qu'il se passait quelque chose d'important, ou même de décisif pour l'histoire de l'instrument, et en quelle mesure il a pu évoluer, vivre, et jusqu'à quand, et à partir de quand, etc.
Et vous avez choisi la ville de Rome.
Et j'ai choisi Rome parce que, évidemment, c'est une autre capitale, et je pouvais pas imaginer qu'un endroit si important, même dans l'histoire de la musique, et dans l'histoire des compositeurs, et puisse être passé de mon bel instrument.
Tiens, c'est un contexte, une histoire que vous connaissiez auparavant, Bernard Faucroul.
J'aurais été incapable de parler du cornet à Rome, très franchement, avant que Lambert ne m'emmène dans cette aventure. Mais par contre, bien sûr qu'il y avait un certain nombre de musiciens romains que je connaissais, que je pratique depuis longtemps. Girolamo Frescobaldi en particulier, et puis également Luigi Rossi et d'autres. Et il y a quelques années, j'avais le projet d'enregistrer un disque Frescobaldi. Je m'étais d'abord tourné vers l'Italie du Nord, parce qu'en général, c'est là qu'on connaît le mieux les instruments, qui sont d'ailleurs absolument sublimes. Et puis c'est Andrea Marcon qui m'a dit « Mais tu devrais aller voir à Rome, parce que c'est quand même une autre facture d'orgue, c'est autre chose. » Et donc j'étais assez souvent déçu de ce que je voyais, parce que c'était pas des instruments en très très bon état ou pas formidables. Puis j'en ai trouvé un qui était vraiment magnifique à Santa Barbara, une petite église, un petit instrument. D'ailleurs, souvent les instruments romains sont pas très très grands. Et puis également en nombril. Et donc ça nous a permis d'aller jouer cette musique romaine sur des instruments de l'époque. 16e et 17e siècle.
Oui, je crois qu'effectivement, vous avez trouvé un orgue dans le sud, en nombril, un orgue de 1509, qu'est-ce que je dis. Qu'est-ce qui différencie finalement les orgues du sud et du nord, Bernard Faucroul?
Alors, sans rentrer dans trop de détails techniques, en gros, les orgues du sud sont d'abord d'un diapason plus bas, qui est très proche du diapason français de l'époque. On est à peu près à 400, 410, donc presque à peu près trois quarts de ton plus bas que le diapason moderne, et puis surtout une facture plus étroite. Donc un son un petit peu moins large, mais extrêmement polyphonique. Et je pense que c'est un atout. Ça donne à cette musique, on joue la même musique de Frescobaldi sur un orgue du Nord ou en nombril ou à Rome, parce que nombril et Rome faisaient un seul territoire en termes de facture d'orgue, eh bien on a un résultat assez différent.
Eh bien, on va découvrir ça dans un instant en écoutant un extrait, bien sûr. Tiens, Lambert Colson, le cornet est un instrument qui est négligé par l'histoire. On en parle moins, on connaît moins de choses que sur l'orgue.
Bah oui, ça fait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est toujours un peu réservé aux spécialistes et aux amateurs de musique ancienne. Oui, parce que c'est tout simplement un instrument qui a disparu progressivement en Italie au XVIIe siècle et en Allemagne au XVIIIe. Et qui a pas, en tout cas, son histoire a pas continué, contrairement à l'orgue qui est un répertoire jusqu'à la musique d'aujourd'hui et toujours bien vivant et bien présent. Et voilà, j'essaye en tout cas, ça fait partie de notre travail de cornettiste d'essayer de ramener cet instrument au goût du jour, et pas simplement au goût du jour, mais en tout cas dans la création, et à montrer qu'il a tout à fait sa place comme instrument pour s'exprimer aujourd'hui. Et qui n'a pas d'équivalent en termes d'instruments aujourd'hui dans l'orchestre.
Et dans le livret ultra fouillé de ce disque, hein, vous racontez aussi que peut-être le fait que cet instrument on en entend moins parler aujourd'hui est dû au fait que c'était la musique vocale ou la tradition a cappella romaine à cette époque. Je rappelle, on est entre 1500 et 1700, qui était plus portée, mise en avant.
Bah oui, Rome, c'est sûr qu'il y a une tradition énorme. Il y a une tradition énorme de chants. Il y avait des grands virtuoses, et spécialement à l'époque où le cornet était important, au début du XVIIe, les chanteurs, et particulièrement ceux de la chapelle Sixtine, etc., qui s'exportaient dans d'autres chapelles dans la capitale romaine, enfin de Rome, notamment la Chiesa Nuova, ou d'autres congrégations type des oratoriens comme le Crocifisso, etc. Ils avaient une activité énorme comme ça aussi de musique un peu expérimentale. Où je pense à des notamment Conforti ou Severi, qui est ces sources qui sont extrêmement intéressantes parce que c'est vraiment de la musique nouvelle à l'époque. Mais pour la musique instrumentale, je crois qu'ils à Rome à ce moment-là, ils ont eu peut-être du mal à se démarquer un peu de ces chanteurs qui étaient si brillants et si intéressants. Et ils ont eu tendance un peu à se cantonner, à l'exception de peut-être quelques solistes, à se cantonner à de la musique un peu fonctionnelle, disons. Et donc c'était je crois que on a essayé de défendre avec Bernard aussi dans ce disque une petite minorité de cornettistes, mais la minorité la plus ambitieuse et créative. Voilà.
Mais on va le découvrir dans un instant. J'aimerais quand même que vous nous expliquiez, parce que c'est vraiment intéressant, ces ensembles instrumentaux que vous divisez en deux catégories. Non, Bercolson, on a les trombetti et les pifari, ou peut-être Bernard Focroul.
Non, je laisse volontiers Lambert.
Alors, les trombetti, les pifari. Alors,
les cuivres, qui sont plutôt les cuivres pour les accueils des cardinaux, des fonctionnaires, des dignitaires étrangers. On a un petit exemple, par exemple, dans le début de l'Orfeo de Monteverdi.
Ah oui, bon, alors en tout cas, c'est sûr que dans l'histoire du cornet, c'est toujours un instrument qui a été, et c'est ce qui a expliqué en grande partie son succès, qui était capable de jouer dans toutes sortes de situations, notamment par ses capacités dynamiques, qui était capable de jouer à la fois très doux, donc de jouer, d'être capable de justement doubler une voix, donc dans les grands offices et dans les paroisses où il y avait besoin de soutenir les chanteurs, à la cour où il y avait besoin de jouer de la musique de danse, et même accompagné par des instruments plutôt doux, donc ce qu'on appelle de basse à cappelle, et de jouer avec des anches et des trombones pour de la musique d'apparat, de parade, etc., dehors. Notamment, dans ce disque romain, on joue de la musique de Maggini, qui était de la musique, un peu les derniers représentants de ces pifari qui jouaient dehors sur la place du Capitole, depuis un balcon. On pense aussi au Concerto Palatino de Bologne, qui était l'équivalent, ou ces Stadtpfeifer, ces traditions plutôt allemandes, qui jouaient du haut de la tour pour annoncer tout un tas d'événements de la vie civile et l'arrivée de grands personnages et aussi rythmer tout simplement à des heures précises c'est un peu comme les horloges parlantes aujourd'hui. À l'époque on avait les cornettistes. Je profite de cette émission pour me porter volontaire de faire l'horloge parlante dans n'importe quelle ville de France ou de Navarre.
Je pense que votre appel va être entendu par nos auditeurs. Écrivez-nous si vous en avez besoin. On va vous écouter tous les deux dans un deuxième extrait de ce disque. Girolamo Frescobaldi, la canzone d'Etala Bernardina, Bernard Focroul, Lambert Colson.
Thank you.
Canzone d'Italia Bernardini, Bernard Foucroul, Lambert Colson, Kiloramo, si je prononce bien, Frescobaldi, organiste à la basilique Saint-Pierre, le plus célèbre, le plus publié du XVIIe siècle, qui a influencé par la suite énormément de compositeurs. Ce qui est intéressant aussi avec ces noms, ces compositeurs qu'on trouve sur ce programme, c'est qu'ils étaient tous virtuoses, capables de jouer aussi de l'orgue, en plus d'être compositeurs. Est-ce que, au niveau de l'écriture, cornet, ensemble instrumental, est-ce qu'il y a une particularité, Bernard Foucroul, Lambert Colson?
Une particularité, non, je pense que ce qui me frappe beaucoup chez les musiciens de cette époque-là, c'est effectivement le fait que entre l'interprétation, l'improvisation, l'écriture, c'est un continuum. Et la plupart de ces musiciens sont capables de s'emparer de la musique de quelqu'un d'autre, d'un motet de Palestrina, de l'orner, de le transformer, de leur mettre, de se l'approprier, comme ils sont capables d'improviser sur un thème populaire, etc. Donc on est dans une pratique de la musique qui est une évidence, qui me semble assez proche de ce qu'on connaît dans le jazz aujourd'hui, par exemple. Alors, bien sûr, ça passe par l'écriture, mais je pense qu'à l'époque, la balance entre oralité et écriture était d'une nature totalement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui en musique classique.
Et tiens, vous, quelles sont vos sources d'inspiration? Où est-ce que vous allez justement chercher votre musique à vous, Bernard Foucroul, parce que vous êtes évidemment aussi compositeur?
Alors ma musique à moi, ben forcément, elle a différentes sources d'inspiration. La musique que je joue, donc forcément, il y a des choses qui m'imprègnent, qui me traversent. La musique ancienne, mais aussi, bon, j'aime beaucoup la musique contemporaine, donc je suis certainement influencé aussi et traversé par des choses plus proches de notre temps. Et j'aime beaucoup travailler sur les textes, sur la poésie, sur Rilke et récemment sur Dante. Et je trouve dans la littérature, enfin surtout à ces niveaux-là, des formes d'inspiration, des images, des images sonores, des images visuelles qui sont extraordinairement porteuses.
Tiens, pour parler de musique contemporaine qui vous inspire, est-ce que des auteurs contemporains peuvent vous inspirer aussi?
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je vais vous révéler que pour l'instant, je travaille sur un texte de Martin Crimp, voilà, et oui, je suis bien sûr très, très sensible à ce qui s'écrit aujourd'hui dans le domaine de la littérature.
Avec une thématique particulière, des histoires particulières, Bernard Foucroul?
Ah, bien sûr, ce sont des créations, voilà, donc à vrai dire, en termes d'inspiration, que ça soit des textes très anciens qui peuvent remonter au Moyen-Âge ou des textes du 19e ou des textes écrits aujourd'hui, voilà, on est dans cette capacité aujourd'hui à aller chercher nos sources d'inspiration un petit peu partout, dans le temps et dans l'espace, ce qui est une liberté absolument formidable, et ça nous donne la possibilité aussi de redonner vie et de redonner une certaine modernité à des textes en fait qui n'ont jamais perdu cette forme d'actualité.
En septembre dernier, vous avez justement convié Lambert Colson, Alice Foucroul aussi, votre fille, et l'ensemble Inalto autour d'une pièce, une création, Evidi Quattro Stelle, c'était donc le 18 septembre dernier, création d'après Dante pour deux voix, quatuor de cuivre, harpe et orgue. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Thank you.
Un extrait de cette création à Vidi Quattrostelle et Bernard Focroul, vous en êtes l'auteur. On écoutait ici Nicolas Bortcheff et puis Alice Focroul aussi, aux côtés de l'ensemble d'Inalto et vous, Lambert Colson. Tiens, c'est quoi l'histoire ici, Bernard Focroul ?
L'histoire, c'est une œuvre qui dure une cinquantaine de minutes et qui traverse un peu le purgatoire de Dante. Qui est un récit absolument sublime, où Dante est d'abord accompagné de Virgile, ils sortent des enfers, ils vont gravir une montagne, et puis aux deux tiers à peu près de ce parcours, Virgile va se retirer, et c'est l'arrivée de Béatrice. Et c'est Béatrice qui accueille Dante, ils se revoient pour la première fois depuis la mort de Béatrice, et c'est Béatrice qui justifie d'ailleurs ce voyage de Dante dans les enfers. Cette rencontre est d'une force dramatique absolument formidable. Je veux dire, le texte de Dante montre, c'est pas du tout des retrouvailles amoureuses. Non, c'est d'abord la passion. C'est d'abord d'ailleurs les reproches véhéments de Béatrice par rapport à la conduite de son ami. Voilà, c'est un moment dans un univers évidemment très spirituel. C'est il y a une humanité. Une qualité littéraire absolument stupéfiante.
Et puis au niveau de la musique, c'est merveilleux, on a beaucoup de couleurs. C'est vrai qu'on écoutait ça en préparant l'émission hier, on se disait, mais c'est marrant, il y a en même temps du Péléas, en même temps on entend du Monteverdi, en même temps on entend un peu d'orientalisme, on a vraiment énormément de sources musicales. Tiens, Lambert Colson, vous comme musicien, est-ce que vous avez accompagné Bernard Focroul dans l'écriture de cette œuvre-là, ou vous êtes arrivé final, avec la partition terminée?
Je sais pas si on peut vraiment dire accompagné, on peut plutôt dire inquiet, parce que je voyais comme il écrivait pour nos instruments, et j'étais en tout cas toujours soucieux de faire en sorte que ça sonne... Enfin, inquiet, en fait, même pas à juste titre, parce que c'est engagé, ambitieux, et pas si facile à jouer pour les cornets et les trombones. Mais tout à fait possible et quand même très vocal, et c'est ce qui globalement c'est ce qui fonctionne sur nos instruments. On est au 17e, au 16e, au 17e, on avait cette place de pâles imitateurs de la voix, et dans la musique d'aujourd'hui c'est d'essayer de en tout cas dans cette ligne là de continuer à se rapprocher de la voix et de l'expression, utiliser les capacités dynamiques des instruments et de timbre. Oui, offrir ces multiples facettes de ces instruments.
On peut dire d'ailleurs, Lambert, que on a essayé de jouer certains extraits de la partition sur des trombones modernes et sur des sacs-boutes, et très clairement, c'était les sacs-boutes qui rendaient le mieux les différentes couleurs, notamment la vocalité. Je crois que les sacs-boutes sont plus proches de la voix que les trombones d'aujourd'hui, et ces musiciens d'Inalto ont fait un travail absolument fantastique.
C'est facile d'écrire pour le cornet, pour la sacboot, Bernard Focroul.
Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile qu'autre chose. Ce qui est important, c'est à la fois c'est de saisir quelque chose de propre à la couleur de ces instruments. Ce qui est passionnant, c'est de leur donner vie aujourd'hui. C'est de se dire que ces instruments qui nous viennent de la Renaissance, ils nous stimulent, ils nous inspirent pour faire des choses nouvelles.
Ont toute leur place finalement dans le monde musical d'aujourd'hui. Lambert Colson, c'est quelque chose que vous sentez aussi, parce que c'est pas la première fois que vous collaborez avec des compositeurs contemporains. Il y a eu Zad Moutaka notamment.
Oui, Zad Moutaka, c'était le tout premier qui a écrit une pièce pour cornet seul, et ça m'a un peu ouvert les yeux sur les possibilités de l'instrument, enfin en tout cas sur un début de possibilité de ce que je m'imaginais comme les possibilités de l'instrument dans la musique d'aujourd'hui. Et ça m'a donné envie de continuer. Il y a aussi une autre pièce pour cornet seul de Fabrice Fitch, qui est un compositeur canadien. Et une première pièce de Bernard Focroul pour orgue et soprano, cornet et orgue, qu'on a enregistrée il y a quelques années. Et cette pièce-là, qui je trouve devient vraiment une sorte d'avancée majeure dans le répertoire de l'instrument. C'est effectivement une pièce... On parle pas d'une pièce de 3 minutes un peu anecdotique, mais c'est une création de plus de 50, d'une cinquantaine de minutes dans lequel les instruments ont vraiment un rôle de soliste. L'orgue avait joué presque plutôt le rôle de l'orchestre, avec toutes les couleurs et les dynamiques possibles de l'orchestre. C'est vraiment écrit pour un orgue symphonique. Et l'ensemble de cuivre, la harpe et les deux chanteurs, plutôt comme un ensemble de chambristes. Et c'était une expérience inoubliable.
Et je crois que vous êtes un curieux aussi, vous êtes très fort à l'écoute, à la recherche de nouvelles sonorités face à votre instrument. Est-ce que justement vous disiez tout à l'heure que c'était quand même assez difficile à jouer cette pièce-là pour votre instrument? Est-ce que ça vous a permis d'appréhender votre cornet d'une autre manière, d'apprendre des nouvelles choses, ou je ne sais pas, de découvrir quelque chose de neuf?
Il y a des toutes petites choses à chaque fois qu'on fait face à une pièce, une création. Il y a toujours des passages où on se dit, bon, ça, il faut absolument que je parle au compositeur, c'est pas possible. J'y arrive pas, on les entoure en rouge, et alors.
C'est toujours recevable, et d'ailleurs, quand on dit, mais oui, on est prêt à changer, alors, le miracle se produit, et ce qu'on avait prévu est parfaitement possible.
Exactement, c'est exactement comme ça que ça se passe, et je commence par dire, non, mais ça, c'est vraiment trop difficile, j'y arrive pas, c'est pas possible. Et puis, en essayant, continuant à travailler, deux semaines plus tard, on le joue, on l'essaye, et en fait, ça devient possible. Et donc voilà, rendre les choses possibles, les faire rentrer dans le domaine du possible, et ça continue à étendre les possibilités, les capacités de l'instrument, et c'est ça qui est passionnant.
À l'époque, le cornet était considéré comme l'instrument le plus proche de la voix humaine dans ses sonorités. Eh bien, c'est une voix que Bernard Faucroul a choisi de nous faire entendre ce matin, qu'on va écouter. Sabine De Vielle, Vorrei spiegarvi odio, Wolfgang Amadeus Mozart. Sabine De Vielle, accompagnée ici par l'ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon à la direction pour cette air signée Mozart. Sabine De Vielle qui sera présente au prochain festival d'Aix, Bernard Faucroul. Une affiche déjà annoncée, je crois que la conférence de presse grand public, on va dire, aura lieu le 25 janvier prochain, mais on en a déjà quelques petits...
Absolument, et donc Sabine De Vielle chantera le rôle de Zerbinette dans Arena Naxos. Et Pygmalion sera, les chœurs et l'orchestre de Pygmalion seront sous la direction de Raphaël Pichon dans La Flûte enchantée de Mozart. Donc voilà, c'est un extrait qui annonce bien
qui
le festival 2018.
70 ans du festival d'Aix, les 20 ans de l'Académie, les 10 ans de Passerelle, qui est le service éducatif et socio-artistique du festival. Vous avez remporté en mai dernier, Bernard Foucroul, le prix du leadership aux Opera Awards à Londres, qui est un nouveau prix qui consacre bien sûr votre carrière à la tête d'institutions comme l'Opéra de la Monnaie ou le festival d'Aix, mais qui consacre également l'engagement en faveur de la formation et l'accompagnement des jeunes artistes. Ça, c'est quelque chose quand même qui vous suit depuis un moment.
Oui, j'ai envie de dire depuis toujours, en tout cas depuis que j'ai pris des responsabilités dans la direction d'institutions culturelles, et plus particulièrement de maisons d'opéra ou de festivals. J'ai toujours été fasciné par la question du partage et de la transmission, et je crois que c'est au cœur même du geste artistique, et j'ai eu un plaisir infini à travailler avec de jeunes artistes, à les mettre en contact avec des artistes confirmés, à organiser ces moments de partage, de faire venir des spectateurs à l'opéra qui jamais n'y étaient venus, qui sont d'ailleurs presque toujours des spectateurs admirables parce que complètement dépourvus de préjugés d'a priori. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le travail de l'Académie à Aix, autant que le travail de ce qu'on appelle le service passerelle, ont été des moments de bonheur absolu.
Tiens, est-ce que vous, quand vous écrivez une œuvre, Bernard Foucroul, vous imaginez les proposer à de très jeunes musiciens? Est-ce que vous avez déjà écrit quelque chose pour de tout jeunes? Parce que bon, l'ensemble Inalto, ça va.
Ils sont oui. jeunes, mais pas si jeunes
Ils
que
sont
ça.
Jeunes, mais plus si jeunes que
alors,
ça.
C'est vrai que ça fait partie des projets que j'aimerais pouvoir réaliser. J'étais hier d'ailleurs à Montreuil pour voir le très beau travail de Benjamin Dupé, du Cœur à l'ouvrage, écrit pour des maîtrises, et notamment la maîtrise magnifique de Radio France, je crois qu'il faut le dire. D'ailleurs, il y a encore ce soir un spectacle, et les spectateurs qui auraient manqué cet événement, je les encourage beaucoup à aller voir ça. Et c'est vrai que je suis très sensible à cette écriture pour des voix d'enfants, des voix d'ados. Il me semble que, voilà, de la même manière que le cornet nous invite à réinventer notre écriture musicale, des voix d'enfants, c'est aussi tout à fait merveilleux.
Le cornet qui se réinvente et le vôtre, surtout l'Envers Colson, puisque vous participez aussi au-delà de la musique classique, à d'autres projets de jazz, d'improvisation avec des artistes tels qu'Emmanuel Bally, Xavier Roger ou encore Eric Vloemans, trompettiste. On va se quitter tout doucement avec un extrait de ce disque d'Eric Vloemans, de trompettiste. Je pense qu'il vient de remporter un prix en plus, décidément. Vous les collectionnez, les récompenses, l'Envers Colson.
Eh ben oui, absolument. C'est un disque qui a reçu dimanche dernier le prix Edison, le prix du public Edison, qui est un prix important aux Pays-Bas. Et on était super contents parce que c'est effectivement un chouette projet. C'est de la musique sans une énorme prétention, je dirais, mais sa musique à lui, hyper sincère et honnête et belle, je trouve, parce que c'est un chouette personnage et c'était hyper attachant. Et pour moi, c'était vraiment une grande, grande découverte. Et je me réjouis, en février prochain, on a encore quelques concerts à venir pour la promotion de ce disque.
Thank you. Ocean of Petals, Eric Vloemans par Lambert Colson notamment, aux côtés du trompettiste Eric Vloemans et le Holland Baroque. Merci à tous les deux, Bernard Faucroul, Lambert Colson, d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle la sortie de votre magnifique disque, le Cornet, sa musique à Rome entre 1500 et 1700 sous le label Passaka. Et puis, beaucoup de dates de concerts aussi. Le 3 décembre pour vous, Bernard Faucroul, concert à Saint-Étienne à l'église Saint-Louis. Et puis le 18 décembre, il faudra bien faire un petit peu de trajet à la Philharmonie de Cologne aux côtés de la soprano Alice Faucroul et de Monheim Adouane. Et puis, vous, Lambert Colson, ce sera un rendez-vous à Bruxelles. Pour le moment, ce sera en avril prochain. Et puis de nombreuses dates de concert aux Pays-Bas. On mettra toutes les dates sur notre site, bien sûr. Merci à tous les deux. Et puis vous restez avec nous, bien sûr.
À réécouter sur francemusique.fr.